Europe Soir,
le 18-20. Thierry Dagiral.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec, dans un instant, le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on va ouvrir, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. Et ce soir, on va parler du boom de l'édition, mais plus généralement de l'écriture. Est-ce que le confinement a favorisé cela? Les Français n'ont jamais autant mis de mots sur leurs mots. Jamais les maisons d'édition n'ont reçu autant de manuscrits. Le retour de l'écrit, c'est un phénomène de société. Et on ouvre le débat donc dans 20 minutes. Mais d'abord, toute l'info avec vous, Christophe Lamarre. Rebonsoir, Christophe.
Rebonsoir.
Bon début de soirée sur Europe 1 et bon week-end. Il est 19h.
Déjà qu'il y a le couvre-feu la semaine à 18h, c'est vraiment privation de liberté totale. Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps.
Confinés pour tout le week-end depuis une heure, les habitants de l'agglomération dunkerquoise n'ont plus le droit de sortir jusque lundi matin, sauf autorisation spéciale.
Paris échappe encore à cette mesure, mais la multiplication des apéros ambulants dans les rues ou dans les parcs irrite la préfecture, qui menace d'étendre l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique à d'autres quartiers de la capitale.
Paris qui envisagerait un confinement de 3 semaines pour enrayer les circulations du virus, la mesure est loin de convaincre le porte-parole du gouvernement.
Alexandre Navalny est en prison, mais on ne sait pas où l'opposant russe a été incarcéré dans un camp de prisonniers quelque part en Russie. Le Kremlin refuse d'en dire plus.
191 km/h sur une départementale. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'avais un rendez-vous pour un vaccin Covid. L'explication de ce conducteur de 88 ans n'a pas vraiment convaincu les gendarmes. Et puis quand le prince Harry raconte The Crown, l'ex-membre de la famille royale a vu la série. Pas loin de la vérité, dit-il.
La météo, Anissa Haddadi. Après les brouillards, le soleil est de retour demain.
Oui, nous aurons des brouillards, Thierry, sur les côtes de la Manche, la Côte d'Azur, la Corse. Dans toutes ces régions, la journée va commencer sous un ciel bien gris, mais le soleil va s'imposer, surtout sur la moitié nord. Les températures continuent de baisser. Demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Merci Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils habitent Dunkerque ou son agglomération et depuis maintenant une heure, ils ont donc l'interdiction de sortir. Premier des 2 week-ends de confinement, 2 jours à la maison pour mettre le nez dehors. Il faudra une attestation et surtout un motif valable. Lionel Gougelot a assisté aux dernières heures de liberté des Dunkerquois.
Une partie de foot sur le sable blanc de la plage de Malo, dernières heures de respiration pour Hugo et ses frères.
Juste avant le confinement de ce soir, on profite des derniers moments, en plus il y a du soleil, donc tout est parfait.
Une bouffée d'air frais pour Sylvain, avant d'entrer dans le tunnel du confinement.
J'ai l'impression qu'on est rentré dans une routine en fait, parce que ça fait un an que ça dure et que voilà, notre vie elle est dictée par le Covid et que bah, on doit s'adapter tous les jours.
Un peu plus loin sur la digue.
On profite du soleil et puis on va faire avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix.
Face à la mer, Noémie savoure ses derniers instants de rêverie au son de la guitare de Tanguy.
Déjà qu'il y a le couvre-feu la semaine à 18h, c'est vraiment privation de liberté totale. Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps.
Des décisions qui sont compliquées à comprendre. À part créer la frustration, je ne pense pas que c'est la meilleure des choses, mais c'est pas nous qui décidons malheureusement.
Mais il est déjà 18h et la plage se vide. Il va falloir maintenant penser à occuper ces 2 jours d'enfermement.
Je vais rester à la maison hein, et puis voilà quoi. On va prendre son mal en patience, on va regarder des séries. On prend sur soi, on en viendra à bout en faisant tous des efforts et tous ensemble. Et voilà quoi.
Retour à la vie presque normale, lundi 6h du matin. Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1.
Un premier des 2 week-ends de confinement donc pour Dunkerque, mais également dans les Alpes-Maritimes. Paris n'est pas confiné, elle ne le sera peut-être pas du tout. On entendra d'ailleurs de ce qu'en pense le porte-parole du gouvernement dans un instant. Mais la capitale doit gérer depuis quelque temps un autre problème, les apéros dans la rue, Christophe.
Oui, ou dans les parcs, cela revient au même. Le respect des gestes barrières est assez compliqué dans ces cas-là, on le devine. Le retour progressif des beaux jours et la douceur des températures ont incité les Parisiens à sortir et à boire dehors. On l'a encore vu le week-end dernier. Coup de sang de la préfecture qui a interdit la consommation d'alcool dans 2 rues très fréquentées, histoire que cela ne se reproduise pas. Et justement, Jean-Jacques Herry, vous êtes allé voir sur place comment ça se passait.
Eh bien, l'arrêté est scrupuleusement respecté. Rue de Bussier, place de la Contrescarpe, personne ne prenait l'apéritif tout à l'heure. Alors j'ai flâné un peu, j'ai descendu la rue Mouffetard et là, je suis tombé sur Vincent et Arnaud, 2 trentenaires qui venaient de se retrouver à la sortie du boulot pour partager leur habituel moment houblon.
On a dû faire 150 mètres avec notre pinte à la main pour aller se mettre dans une sortie de parking. La petite pinte de bière d'après-boulot qu'il n'est pas possible de prendre après 18h. Bah oui, cette semaine, la tentation était plus forte sûrement. Et en plus, il fait un peu plus froid et un peu plus moche la semaine prochaine, donc cette semaine, on ne s'est pas loupé. Je pense que ça limite concrètement les rassemblements, qu'on ne puisse pas se mettre devant le bar. Après, ce n'est pas partout pareil et on va trouver des solutions.
Cette solution, beaucoup d'ailleurs l'avaient trouvée en bord de Seine, sur les quais. La population était un peu plus jeune, les groupes plus nombreux, mais très espacés. On y trouvait surtout des étudiants en manque de vie sociale.
Nous, on
on est à la Sorbonne à côté. Donc c'est les quais juste à côté. Il y a un bar qui sert des pintes fraîches, donc on se pose là automatiquement.
La mairie de Paris avait proposé, enfin ils sont revenus un peu en arrière, 3 semaines de confinement total. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça va être dur, mais bon, ça change rien pour les étudiants. On est déjà un peu en confinement depuis octobre.
Non, en vrai, on commence à avoir un peu l'habitude. Bon, comme c'est la radio, je vais le dire, parfois on brave le confinement, le couvre-feu. Mais en soi, on est tous en cours à distance, donc ça ne nous change pas vraiment notre quotidien non plus.
Puis vers 17h45, les gens ont commencé à se lever, les quais à se vider, car oui, le compte à rebours avait commencé, il fallait rentrer, mais personne ne se hâtait vraiment, tout le monde avait l'air blasé et les sourires déjà s'étaient un peu émoussés.
Jean-Jacques Héry, on reste à Paris, le confinement de 3 semaines défendu par la mairie a du plomb dans l'aile.
Simple hypothèse et non pas une proposition à corriger le premier adjoint Emmanuel Grégoire ce matin qui a dû rétro-pédaler. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui tend la main et suggère une autre idée.
Hier, la mairie de Paris exigeait un reconfinement strict de la capitale et aujourd'hui, il me semble qu'il n'en est plus question. Hier, la mairie de Paris, par la voix de son adjointe à la santé, demandait la fermeture de l'intégralité des écoles de la ville de Paris et aujourd'hui, je comprends qu'il n'en est plus le cas. Hier, il s'agissait de mesures qui concernaient la capitale et aujourd'hui, il me semble que l'échelle a évolué et que c'est la région qui est concernée. Hier, on parlait de 3 semaines pour ces mesures et je n'en entends plus parler aujourd'hui, donc j'aurai le plus grand mal à commenter. Nous tendons la main aux élus de Paris et qu'ils rejoignent la concertation pour en discuter ensemble. Je peux parfaitement comprendre que c'est difficile et qu'ils aient besoin d'abord de se concerter avec eux-mêmes avant de pouvoir avoir cette discussion. Mais encore une fois, je pense que c'est tous ensemble qu'on relèvera ce défi.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, tient les bonnes nouvelles. Ne sont pas si fréquentes. Après tout, la campagne de vaccination des plus de 65 ans commencera début avril.
La crise sanitaire donc, les restrictions ne sont pas sans conséquences sur la consommation des ménages.
Elle a baissé de 4,6% selon l'INSEE. En janvier, les Français ont acheté moins de biens fabriqués. Le secteur de l'habillement et du textile s'effondre de près de 28%. Hausse en revanche de la consommation d'énergie en raison du froid et des dépenses alimentaires.
Et à ce propos, les tarifs réglementés du gaz vont augmenter à compter du 1er mars, plus 5,7% en moyenne. Une hausse justifiée par l'augmentation des prix du gaz sur les marchés selon la Commission de régulation de l'énergie.
En Russie, Alexeï Navalny purge sa peine de prison, mais le Kremlin ne veut rien dire de sa situation.
Et on sait seulement ce soir qu'il a été transféré dans une colonie pénitentiaire, mais personne ne sait exactement où, Mathieu Bock.
Oui, même son avocat ne sait pas où il est. Les services pénitentiaires restent muets. On sait seulement que Navalny a quitté la prison moscovite dans laquelle il était détenu depuis son retour en Russie en janvier dernier. Ces colonies pénitentiaires sont des prisons très secrètes, éparpillées sur tout le territoire, généralement perdues en pleine campagne, loin de toute ville. L'éloignement est la clé de voûte de ce système carcéral puisque les prisonniers n'ont le droit qu'à 6 visites de 4 heures par an, c'est tout. L'administration pénitentiaire a précisé que Navalny pourra, s'il le souhaite, participer à des activités de production, je cite. Le travail des détenus y est souvent obligatoire, que ce soit dans la fabrication de meubles ou dans des ateliers de couture. Alexeï Navalny doit y passer 2 ans et demi. Les autorités ont précisé qu'il effectuerait sa sentence dans des conditions absolument normales, je cite encore une fois, une manière de faire taire les critiques envers ces prisons régulièrement dénoncées pour leur violence par la presse et par les ONG.
Une précision de Mathieu Bock. C'est un conducteur très pressé que les gendarmes ont intercepté hier dans le Bas-Rhin.
Écoutez bien, 191 km sur une départementale limitée à...
Ça fait beaucoup.
110. Le conducteur ne s'est pas démonté. Aux gendarmes qui l'ont intercepté, il a expliqué qu'il était en retard à un rendez-vous de vaccin Covid. La suite, c'est le commandant adjoint de l'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin qui nous l'a raconté, Eric Lemoine.
Lorsqu'il lui demande ses papiers, il se rend compte que ce monsieur, il a déjà 88 ans. Donc c'est déjà une première surprise. Et puis, la deuxième surprise, c'est comme d'habitude, quand on rentre dans la conversation, il lui demande effectivement la raison de cet excès pour essayer de comprendre. Et là, le monsieur leur indique que c'est pour aller prendre son vaccin Covid. Il leur explique qu'il avait pris du retard et que pour pallier ce retard, pour se faire absolument vacciner, il s'est permis d'accélérer sur cette voie départementale. Il a pu faire son vaccin, mais il a été pris en charge par quelqu'un d'autre puisque son véhicule a été bien évidemment immobilisé.
Voilà, qui n'était pas réfractaire au vaccin, en revanche un peu réfractaire aux limitations de vitesse. Éric Lemoine, le commandant adjoint de l'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin, il répondait à Marion Dubreuil. C'est l'une des séries à succès proposées par Netflix, The Crown, ou l'histoire de la famille royale britannique. Et c'est encore le prince Harry qui en parle le mieux.
Et oui, il a vu la série, mais surtout le prince Harry brise le silence de la famille royale qui n'a pas tellement apprécié cette fiction. Il s'est confié à un célèbre animateur américain à l'occasion d'une émission, Diane Chénoudin.
Oui, c'est une séquence assez surréaliste. On voit le prince Harry en tenue décontractée, jean et polo, assis au dernier étage d'un bus à Impérial qui sillonne les rues de Los Angeles. Le prince répond aux questions du célèbre animateur télé James Corden pour son Late Late Show et il n'hésite pas une seconde à dire ce qu'il pense de la série The Crown. Écoutez.
C'est un récit de fiction, bien entendu. Mais c'est vaguement basé sur la réalité. Et en gros, ça vous donne une idée de ce mode de vie, de la pression, de ce que c'est de faire passer le devoir avant toute chose, avant la famille, de tout ce qui en découle. Je suis bien plus à l'aise avec la série The Crown qu'avec les ragots que je lis dans la presse sur ma famille, ma femme et moi-même. Parce que d'un côté, c'est de la fiction, vous le prenez comme vous voulez. De l'autre, ce sont des articles présentés comme des faits avérés.
Le prince Harry précise même qu'il verrait bien Damien Lewis, le héros de Homeland, jouer son rôle dans The Crown. Le prince se lâche donc sur cette série. Il faut dire qu'il a récemment signé un juteux contrat avec Netflix. Il n'a donc pas intérêt à se fâcher avec la plateforme. Il se confie aussi sur sa vie à Los Angeles et surtout, il revient sur son départ de Londres. « Si j'ai quitté le Royaume-Uni, c'est pour échapper à une presse britannique toxique qui me détruisait », dit-il. « J'ai voulu mettre ma famille à l'abri, mais je n'ai jamais voulu tourner le dos à la monarchie ». Seulement prendre du recul.
Diane Chénouda du service culture d'Europe 1. Le football, 27e journée de Ligue 1 ce soir. Rennes-Nice, coup d'envoi à 21h. Et puis en rugby, la France affrontera les All Blacks. Ce sera le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023 qui se jouera bien sûr en France.
C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. Bon week-end à vous.
Bon week-end.
La météo, demain à Nice Hadadi, demain du soleil au nord, ça sera plus mitigé dans le sud. Hein.
Oui, voilà, c'est la répartition de demain, une fois n'est pas coutume. C'est vrai que dans le sud, et notamment sur l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, nous aurons dans ce secteur dès demain matin un ciel beaucoup plus couvert avec des petites averses et même le retour de la neige à partir de 1200 mètres d'altitude. Ça concerne bien sûr les massifs alpins. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane sont de retour, jusqu'à 80 km/h en rafale pour le Mistral. Et puis sur la moitié nord, vous le disiez Thierry, le soleil est de retour, alors seulement l'après-midi, parce que la journée, dans le nord, ça va commencer avec pas mal de brouillard, et notamment tout le long des côtes de la Manche.
D'accord.
Donc le nord de la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, les Hauts-de-France, là il y aura des brouillards pour tout le monde. Dans le sud aussi, hein, pas mal d'entrées maritimes sur la Côte d'Azur et la Corse. Tous ces nuages bas vont se dissiper à la mi-journée pour laisser place sur la moitié nord à un soleil assez radieux qui va briller dans un ciel complètement dégagé. Mais il ne sera pas assez fort ce soleil pour faire grimper les températures qui continuent de baisser. Avec des valeurs négatives, on aura moins 1 degré du côté d'Aurillac. Seulement 5 à 7 degrés sur la moitié nord. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas cher payé. Jusqu'à 11 degrés du côté de Perpignan. Puis dans l'après-midi, c'est en Auvergne qu'on aura le plus frais avec 5 à 8 degrés. 9 à 12 sur la moitié nord, on aura 12 degrés à Paris par exemple. Et puis au bord de la Méditerranée, c'est un petit peu plus doux, 15 degrés à Marseille et jusqu'à 18 à Perpignan.
Et l'Auvergne, vous et moi, on aime.
On est attachés, oui.
Merci Anissa.
Bonne soirée.
19h13 sur Europe 1, dans un instant, le boom des mots. Les Français n'ont jamais autant lu, ils n'ont jamais autant écrit aussi. Passion, écriture, c'est notre débat du Club des Idées ce soir. Mais d'abord, la carte blanche du jour.
Europe Soir, Thierry Dagiral.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonsoir.
Alors vous nous proposez ce soir un coup de griffe sur l'alimentation.
Oui, on se bat dans les cantines, Thierry. Rien de nouveau, allez-vous me dire. Nous avons malheureusement tous lancé des yaourts ou des frites sur nos petits camarades durant notre scolarité. Seulement voilà, maintenant on se bat au couteau dans les cantines. Et les combattants ne sont pas des enfants, mais des adultes. La cantine est devenue l'arène où s'affrontent les hommes politiques.
Et j'imagine que vous faites référence à cette polémique de la semaine, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a imposé un repas unique végétarien pour rendre la circulation des élèves plus fluide et éviter, dit-il, les attroupements.
Oui, les réactions ont été immédiates dans la sphère politique. Cocasse d'ailleurs, car en ce moment, on entend surtout les médecins, lesquels ont sans doute quelque chose à nous dire sur la nutrition. Or, là, aussitôt, les politiques ont préempté le sujet et l'ont confisqué. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une idéologie scandaleuse, le résultat d'une politique moraliste et élitiste qui exclut les classes populaires. De nombreux enfants n'ayant souvent que la cantine pour manger de la viande. À sa suite, le ministre de l'Agriculture a fustigé l'idéologie derrière tout cela. Je résume donc, manger végétarien, c'est idéologique, tandis que manger carné, ce n'est pas idéologique, non, c'est normal. Et là, j'ai juste envie de rire.
Pourquoi ?
Toute nourriture est idéologique. Le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss avait montré dans son livre « Le cru et le cuit » que les hommes repéraient l'arrivée de la civilisation dans le passage du cru au cuit, la maîtrise du feu étant l'instrument de la transformation. Manger cru définit le sauvage, manger cuit définit le civilisé. Depuis l'aube de l'humanité, tout plat dégage un sens.
Et il faut le dire, les religions aussi d'ailleurs prescrivent ou proscrivent les aliments.
Chaque religion impose un régime alimentaire. Depuis l'interdiction du porc chez les juifs et les musulmans, le vendredi maigre chez les chrétiens, jusqu'au végétarisme dans le bouddhisme et l'hindouisme, sans parler des diètes, jeûnes, carême et ramadan. Manger, c'est toujours signifier. Ne pas manger, c'est également signifier. Il n'existe pas d'alimentation dépourvue de sens. L'idéologie travaille dans la cuisine et s'installe à table avec nous. Avec la polémique lyonnaise de cette semaine, nous saisissons d'ailleurs un autre pan idéologique de la nourriture, le marqueur social. Pendant les siècles précédents, manger de la viande, c'était non seulement manger riche, mais manger comme un riche. L'absence de viande révélait la pauvreté.
C'est vrai. Et ça a changé ou pas ?
Très récemment. Si autrefois celui qui ne mangeait pas de viande était pauvre, aujourd'hui, celui qui ne mange pas de viande est riche. C'est le bobo, le bourgeois, le citadin aisé. Autrefois, celui qui ne mangeait pas de viande n'avait pas le choix, il ne pouvait pas se payer de la viande. Aujourd'hui, celui qui a les moyens de choisir devient éventuellement végétarien pour des raisons spirituelles, morales ou diététiques. L'alimentation végétarienne a radicalement changé de place dans la société, du bas en haut. Marqueur de la pénurie, elle est devenue marqueur de l'opulence.
Et d'où l'accusation d'élitisme dans la bouche du ministre de l'Intérieur.
Exactement. Cependant, il est bien trop intelligent pour ignorer ce que je viens de rappeler, que tout aliment est idéologique et idéologisé. Alors que fait-il ? Que fait un homme intelligent quand il cesse d'être intelligent ? Il fait de la politique. Gérard Darmanin a compris que l'ennemi électoral était vert et il veut montrer que les verts sont des bleus. Que les verts sont des novices en politique. Et Grégory Doucet à Lyon lui-même se comporte en politique quand il justifie la mesure végétarienne par des raisons prophylactiques liées à l'épidémie. Il avance masqué et noie le poisson. Il noie le salsifis.
Et dans quel but selon vous ?
Mesurer le pouls de la société, forcer l'adversaire à sortir du bois. À la rentrée, il désire mettre en place une solution bien plus équilibrée, le choix entre un menu végétarien et un menu carné, ce qui me paraît non seulement du bon sens, mais profitable à la santé, puisque la science nous dit que nous mangeons maintenant trop de viande. Sur un tel programme, tout le monde pourrait s'entendre d'ailleurs, les végétariens, les carnivores, les omnivores, les agriculteurs, les éleveurs, les médecins. Seulement voilà, nos politiques, à tous les aliments, préfèrent un fruit, un seul. La pomme de la discorde. Il caricature l'adversaire pour qu'on ne le voie pas et qu'on ne l'entende pas. Il privilégie la polémique, le buzz, le bruit, plutôt qu'un franc et honnête débat suivi d'une décision commune. Décidément, la politique rend sot des gens intelligents et bien intentionnés. Je vous livrerai donc mon ultime pensée, Thierry. La bêtise, c'est ce qu'il y a de plus dur à digérer.
C'est dit. C'était le coup de griffe ce soir d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup, bon week-end à vous.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h20 sur Europe 1. On ouvre à présent notre débat du Club des idées autour de ce phénomène de société. Les Français se passionnent à nouveau pour l'écriture. Durant le confinement, les premiers manuscrits se sont multipliés. Les maisons d'édition croulent sous les écrits. Et les ventes de livres, est-ce qu'elles ont explosé ? Bien sûr, oui. Alors, est-ce que c'est un véritable boom littéraire ? On va en parler ce soir avec Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et président et cofondateur d'une école d'écriture, les mots. Bonsoir Alexandre. Il n'est pas là Alexandre, il va nous rejoindre dans un court instant.
Si, je suis là.
Oui, bonsoir Alexandre. Louis, journaliste, podcasteur, vous allez publier votre premier roman, Les chiens de faïence à la rentrée, c'est ça ?
C'est ça.
Aux éditions La Martinière, et puis Bernard Werber, qu'on ne présente plus, écrivain, auteur de La Planète des Chats aux éditions Albin Michel, et maître d'écriture à la masterclass The Artist Academy. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est.
Exactement.
Vous l'avez senti, vous l'avez ressenti, vous, cet engouement littéraire. Bernard, on commence avec vous, allez.
Vous voulez dire en période de Covid ou
oui, en période de Covid. Là, en ce moment, on est en train de vivre quelque chose de rare.
Oui, bah, les gens se retrouvent seuls chez eux avec le confinement, avec le couvre-feu. Donc, une fois qu'ils ont terminé de regarder toutes les séries à la télévision et qu'ils ont terminé d'écouter vos émissions radio, ils ont envie tout d'un coup de se retrouver. Et je crois que l'envie d'écrire est d'autant plus forte, précisément parce qu'ils sont enfermés chez eux, qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller dans les cafés, dans les restaurants. Donc je pense qu'il va apparaître une génération Covid de jeunes écrivains inspirés par cet enfermement forcé.
Thomas Louis, génération Covid ou pas?
Bah, de fait, oui.
Vous êtes mis à écrire pendant le Covid, pendant la pandémie?
Je ne me suis pas mis à écrire pendant la pandémie, mais je me suis mis à l'envoyer, en fait, concrètement.
C'est ça.
Et il se trouve qu'en fait, dans cette période...
Pourquoi précisément? En ce moment, vous vous êtes dit c'est possible. Ça pouvait être possible aussi il y a 2 ans.
Ça l'était possible.
Mais il y avait un moment, enfin, il y a eu un déclic?
Pas du tout. Mais c'est en fait, je pense que la période... Dans cette période, concrètement, tout était mouvant et en même temps complètement monotone pour moi, dans le sens où il fallait faire un peu de la vie avec peu. Et ce que le confinement a modifié, c'est peut-être la manière dont j'ai envisagé mon manuscrit. C'est-à-dire que, il vous aura pas échappé qu'on a eu un quotidien qui a été quand même collectivement allégé, notamment en sortie, en rendez-vous, qui sont souvent très chronophages. Et j'ai peut-être pu davantage poser mes idées parce que j'avais l'esprit peut-être plus libre sur ce que j'avais envie de faire et j'ai peut-être pu mieux le travailler concrètement. Et il se trouve que écrire, c'est aussi nourrir une pratique, en ce qui me concerne en tout cas. J'ai jamais été sûr que je deviendrais écrivain dans ma vie, mais il y a toujours quelque chose qui a été omniprésent et que j'ai employé de manière très soigneuse, c'est que j'écrivais un livre non pas en me disant qu'il serait publié, mais en sachant pertinemment que j'en écrirai un autre juste après et qu'il permettrait de nourrir cette pratique. Et peut-être que cette pratique s'est un peu affinée au moment où je me suis dit que j'avais un peu le temps de le faire, vraiment.
Un chiffre, en moyenne, les grandes maisons d'édition ont enregistré 40% de textes en plus comparé aux années précédentes. Alexandre Lacroix, vous ressentez vous aussi cet engouement?
Oui, bien sûr. Alors, il y a une magie, de l'écriture, c'est que c'est un art qui, du point de vue technique, est assez léger. Je veux dire par là que pour peindre, vous avez besoin d'un atelier, de toile, de pigments, d'huile, pour réaliser un film. Alors, n'en parlons pas. Pour jouer une pièce de théâtre, eh bien, c'est pas possible. L'écriture, c'est un art en fait mobile. Il suffit d'un carnet, de quelques notes. On peut le faire chez soi, dans le recueillement, au cœur de la nuit, à toute heure. C'est toujours disponible. C'est toujours là sous la main. En fait, l'écriture est toujours là sous la main. Et c'est sa magie, sa force dans les périodes de restriction des voyages et de restriction des activités culturelles. Et c'est vrai que l'école Les Mots, dont je suis le cofondateur, a lancé au premier jour du confinement des ateliers, toute une série d'ateliers, en fait, écrivez votre journal du confinement. On savait pas très bien ce qu'allait se passer, mais on a fait cette proposition, ça a été la ruée. Et là, on a pu mesurer, si vous voulez, qu'il y avait une volonté, et que je trouve très intelligente, très pertinente, de beaucoup de personnes qui n'avaient jamais osé se lancer dans l'écriture, qui avaient un peu peur de la page blanche,
vraiment franchi
de se dire, mais finalement, je suis enfermé, je vais sauter le pas. Je vais sauter le pas.
Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles d'écriture? On apprend à écrire son premier manuscrit, par exemple?
Par exemple, il y a des ateliers qui s'adressent à des participants qui ont vraiment un projet de manuscrit. Mais ça, vous savez, c'est une étape déjà très avancée dans la vie d'un écrivain en devenir. Au départ, on apprend aussi à ne plus avoir peur de la page blanche. L'atelier classique, c'est pas du tout lancez-vous dans un roman. C'est comme si on vous disait déjà de jouer dans un opéra. Enfin, l'atelier classique, c'est aussi se faire plaisir, découvrir des techniques, découvrir une pluralité de techniques d'écriture. Je veux dire, ça va de découvrir les genres. Et puis aussi, surtout, je dirais, apprendre à raconter une histoire. Parce que la narration, en fait, la manière dont on présente les personnages, dont on tisse des rebondissements, dont on rend une histoire, une intrigue intéressante, ça repose pour partie sur le génie, et ça c'est impondérable, mais aussi pour partie sur des techniques, et ça on peut les apprendre dans une école.
Bernard Werber, vous qui êtes une star de l'édition maintenant,
Quand un petit môme ou un jeune vient vous voir en vous disant « Bernard, comment on fait pour sortir un bouquin? Comment on fait pour écrire ?» Vous dites quoi ?
Je dis que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il suffit de trouver une régularité. Et aussi, je dis autre chose, il faut faire taire la machine à juger. Je crois que beaucoup de gens n'arrivent pas à écrire parce qu'ils ont le prof de français qui tout le temps leur dit « c'est pas assez bien, c'est pas assez esthétique ». Et il faut juste
s'amuser. Il faut de l'audace, quoi.
Je crois que tout le monde a envie de raconter des histoires. Déjà, tous les soirs, quand on se retrouve à un dîner en famille, chacun raconte une petite histoire. Mais après, il faut laisser notre esprit gambader. J'ai ça comme un cheval. Vous savez, un cheval, ça a naturellement envie de galoper. Notre esprit a envie de galoper en racontant des histoires.
Il faut libérer l'écrivain qui est enfoui en soi.
Exactement. Et renoncer à avoir un projet. C'est-à-dire que si vous écrivez pour passer à la télévision, pour faire un best-seller ou pour être riche et célèbre, ouais, c'est foutu. Il faut juste écrire pour trouver le plaisir d'écrire. Et c'est ça, dans le masterclass, je pense que le monsieur Desmaux aussi est là-dedans, c'est juste...
Alexandre Lacroix.
Mmh. C'est juste rappeler que écrire, c'est marrant.
Parce
c'est
que vous
un plaisir.
Aussi, Bernard, dans votre école, justement, dans la fameuse masterclass The Artist Academy, c'est ce que vous enseignez à Desmaux?
Oui.
Desmaux, d'ailleurs, je ne sais pas quel âge ils ont. Mais...
Oh non, je crois qu'il y a tous les âges. Ouais. Mais surtout, je leur dis, attendez, on va essayer de trouver une dimension de plaisir. Si vous commencez à souffrir dans l'écriture... Bah, les gens vont souffrir à vous lire. Donc il faut que vous mariez, il faut que vous ayez peur quand vous écrivez par vos propres personnages, et il faut qu'au moment où vous écrivez, vous retrouviez des amis. Tous les personnages, c'est des potes, et personne ne pourra comprendre votre petit monde, fabriquer un monde. En fait, c'est le plaisir d'être un petit dieu. C'est-à-dire, vous fabriquez un monde avec des décors, des personnages, ou le plaisir de metteur en scène tout à l'heure.
C'est ça, exactement.
Il évoquait le... On est le réalisateur d'un monde qui n'existe pas, et on va le faire émerger, et c'est le plaisir d'émurge, c'est le plaisir... de créer là où il n'y avait rien, tout un univers.
Il y a le moment où on pense écrire et puis le moment où l'on écrit. Je voudrais qu'on écoute Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur de Paradis perdu. C'était sur l'antenne d'Europe 1 le mois dernier, en 2021, février 2021, il y a quelques jours.
Je sortais de mes études, j'enseignais à la fac, et j'ai eu cette idée d'un personnage immortel qui traverserait les temps, qui nous les raconterait, et qui en serait à la fois le témoin et l'acteur. Mais j'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais j'étais incapable de réaliser cette idée.
Thomas Louis, journaliste, qui va publier bientôt son premier roman à la rentrée prochaine. Il faut du temps pour écrire, pour sortir ce livre, pour oser mettre des mots sur une page, pour oser proposer son manuscrit à une maison d'édition.
Alors, il faut du temps. En ce qui me concerne, pas vraiment, parce que j'avais déjà sauté le pas. Ça fait, alors, du haut de mes 28 ans, mais ça fait déjà presque finalement 10 ans que j'écris des manuscrits, mais pas toujours dans l'optique d'être publié. Et donc, j'avais déjà eu cet exercice un peu de... Bah, où on ne sait pas trop comment on va se présenter, on envoie son manuscrit, personne ne sait qui on est, etc. Et bon, il se trouve que même avec du recul, ils n'étaient pas très bons, ces manuscrits. Ouais. Mais j'avais déjà fait ce geste d'envoyer un manuscrit. Mais après, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, dans le plaisir d'écrire, moi, c'est le travail de la langue, en fait. C'est, on pense toujours maîtriser la langue, mais toujours c'est elle qui nous domine à travers... son histoire, son étymologie, etc. Et ça, c'est un vrai exercice de modestie, en fait, d'écrire. C'est un très bon exercice pour s'approprier sa langue, et gratuitement, en plus, on l'a pas dit, ça, encore. Mais bon, certes, il n'y a pas besoin d'un atelier, etc., mais il n'y a besoin de rien, concrètement. Et ça permet, non pas de la redécouvrir, mais de l'explorer. Par exemple, si je vous dis « il a le dessous des yeux bistres », concrètement, c'est pas la même chose que de dire « il a des cernes ». Et bon, j'extrapole un peu, mais quoique. Mais l'écriture, c'est aussi ça. C'est un formidable moyen de faire des pleins et des déliés avec sa langue. Mais c'est une vraie leçon de modestie, effectivement, ne serait-ce que d'envoyer son manuscrit.
Bernard Werber, vous qui connaissez le monde de l'édition parfaitement depuis bien longtemps.
Oh non,
mais vous restez, un jeune homme. On l'a dit, 40% de manuscrits adressés aux maisons d'édition en plus cette année. Mais tout de même, on restera sans doute autour de 600 livres pour la rentrée littéraire de septembre prochain.
C'est énorme.
500 pour le mois de janvier. C'est énorme, mais en même temps, c'est très peu quand on sait que chez les grandes maisons, on reçoit entre 4000 et 6000 manuscrits par an.
Oui, mais moi, je vois, quand je vais chez Albin Michel, je vois le tas des manuscrits. C'est qu'ils en reçoivent 40 par jour. Alors, je ne sais pas, en général, chez les autres éditeurs, mais 40 par jour, c'est-à-dire 40 personnes qui ont mis toute leur âme, tout leur truc, là, dans ce tas. Et en fait, il faut savoir une chose, ceux qui vont lire ces manuscrits, c'est essentiellement des profs de français à la retraite et des étudiants.
Ouais.
Donc, vous allez être jugé par ces deux personnes. Et alors, il y a un problème dans tout le système, c'est qu'en général, ils jugent avec la volonté de trouver le prochain Goncourt.
Ouais.
Et ce Goncourt, c'est une sorte de miroir aux alouettes où sur 600, en gros, il va y avoir un seul qui a le Goncourt et 599 qui vont être cocus du prix littéraire. Donc, il faut restituer ça. Ça m'a l'air un peu l'abattoir. Ouais. C'est la grande boucherie de septembre. Et moi, j'ai plutôt envie de dire, faites un livre populaire. Faites pas forcément un livre qui recherche un prix littéraire. Faites un livre qui touche le grand public. Et justement, la fonction de raconteur d'histoire, c'est raconter une histoire pour que les gens s'amusent, pour qu'ils se détendent, pas forcément pour qu'ils s'émerveillent devant la qualité du style, mais qu'ils soient juste, qu'ils s'oublient eux-mêmes et qu'ils vivent une évasion.
Je voudrais qu'on ouvre une parenthèse, parce que je voudrais qu'on accueille Pierre Nozière. Vous venez de dire quelque chose de très important, Bernard Werber. Il faut mettre son âme. Bonsoir Pierre Nozière.
Bonsoir.
Vous êtes biographe, fondateur du réseau Les Compagnons Biographes et auteur de Osez votre livre aux éditions Voix Plume. Vous êtes un accoucheur finalement, c'est-à-dire qu'en gros vous dites à des gens, à des jeunes qui veulent écrire ou des moins jeunes, libérez votre âme, ce que disait à l'instant Bernard Werber, c'est ça ?
Oui, accoucheur, passeur également. Notre métier, en fait, il consiste à accompagner les personnes qui veulent écrire leur livre, s'exprimer et donc traduire leurs sentiments, ce qu'a été leur vie. Et effectivement, ces personnes ont une difficulté à s'exprimer naturellement, c'est la raison pour laquelle elles font appel à nous.
Ouais.
Oui, effectivement, nous avons cette mission maïotique un peu de les accoucheurs, de les conduire à leur ouvrage.
Avec le confinement, justement, vous avez vu un boom pour la biographie. Les gens avaient envie de se raconter et de raconter finalement ce qu'on a tous vécu.
Alors justement, c'est ce que je ressentais par rapport à la question posée. Notre réseau, les Compagnons Biographes, nous exerçons partout en France. Ce qui fait que notre activité nous met en proximité par rapport à cette passion française là, qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et là, je peux vous dire clairement que notre ressenti actuel, c'est effectivement une intensification de la demande.
Oui.
Et tout indique qu'elle est liée au confinement, au couvre-feu. Les éditeurs, Alexandre Lacroix l'a dit tout à l'heure, constatent que beaucoup de personnes ont été vers la fiction, la poésie, l'écriture de romans. Mmh. Nous, les Compagnons Biographes, nous connaissons des projets qui sont tout autres, puisqu'ils sont dans l'expression autobiographique que précisément nous devons faire accoucher. Et soit c'est pour une réflexion ce qu'ils ont vécu, faire un point d'étape dans leur vie et aussi envisager de nouveaux projets. Ou bien alors, et ça rejoint tout à fait le confinement, ça peut être aussi pour recréer du lien familial ou amical et d'une façon beaucoup plus profonde et d'ailleurs durable, vu le support, que les apéros Zoom et les messages dans les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est ce qui est très fort.
Ouais.
Malheureusement, lorsque je dis que nous constatons une intensification, ce n'est pas pour autant que le nombre de demandes existe aussi. Parce que là, il y a un problème générationnel, c'est le fait que dans cette époque, les personnes les plus âgées, notamment celles qui sont en EHPAD, se heurtent aux barrières sanitaires, qui fait que concrètement, elles ne peuvent pas recevoir leur biographe. Et vu la tranche d'âge où elles sont, elles ne peuvent pas communiquer par des produits comme Skype, Zoom, etc. Mais on peut vraiment croire qu'une fois que tout cela sera fini, leur envie va revenir. Parce que ce sera soit leur envie de transmettre eux-mêmes parce qu'ils auront été conscients des fragilités de la vie auxquelles ils auront été confrontés. Et puis, bien sûr, leurs enfants, petits-enfants aussi devraient exercer leur demande. Un rajeunissement, mais provisoire, et on espère que ça se retrouvera.
Je vous écoute, mais quand même, c'est un peu étonnant, Bernard Werber, il y a un côté quand même très égocentré, égocentrique. Ah
oui. Surtout en France, où on utilise la littérature comme une manière d'éviter la psychanalyse. D'ailleurs,
c'est ça.
Il faut voir le nombre de romans autobiographiques dans lesquels la personne, en fait, règle ses comptes avec ses parents, avec son passé, avec son patron. Donc, ça devient une sorte d'exutoire. Mais ça, c'est une forme de littérature.
Ouais.
Ce n'est pas celle que je prise le plus en tant que lecteur, mais je reconnais qu'en France, ça prend une part énorme. Et il faut voir aussi une chose, c'est que écrire un livre, ça offre un pouvoir énorme, c'est celui de devenir immortel. C'est-à-dire, vous écrivez un livre qui raconte...
On laisse une trace à tout jamais.
Voilà. Vous écrivez un livre qui raconte votre vie.
Bien sûr.
Vous pouvez mourir en traversant la rue. Il va rester ce livre. Et donc, vous allez exister dans les mémoires. Alors que les autres, ceux qui n'auront pas écrit de livre, seront oubliés.
Pour terminer avec vous, Pierre Nozière, combien ça coûte d'écrire une biographie ?
Alors là, le coût, bien sûr, écrire un tel livre, ça prend beaucoup d'heures, vous vous en doutez.
Bien sûr.
Et donc, il y a les honoraires du biographe qui sont à supporter.
Ouais.
Donc, selon les prestataires, en général, ça coûte au moins 2 000, 2 500 euros, effectivement, à dépenser, ce qui fait partie, d'ailleurs, des obstacles, surtout en période de crise, effectivement. Mmh. Par contre, par rapport à ce que disait Bernard Ferber sur, sur la nature, c'est pas si égocentrique que cela, justement. Parce que nous, compagnons biographes, on constate que, au contraire, à l'occasion de ce projet d'écriture, les gens se relient à leurs proches, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions à des vieux copains, à des enfants pour rassembler leurs souvenirs.
Ouais.
Et puis, quand ils vont choisir les photos, ce sera toute la famille qui va s'y mettre. Et ensuite, quand le bouquin est sorti, il y a les critiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tous les copains qui vont dire « D'abord, toi, t'as oublié de parler de moi, c'est pas très gentil, bon, ça c'est anecdotique. » Mais surtout, qui vont dire « Ah oui, tu sais, là, la circonstance que tu m'as racontée, eh bien, j'en ai discuté avec un tel, c'est pas comme ça que ça s'est passé. » Ce qui est tout à fait normal, bien sûr, parce que la mémoire est subjective. Mais au contraire, là, je ne rejoins pas Bernard Weber, c'est pas du tout la tour d'ivoire que d'écrire son livre. C'est au contraire ouvrir les portes en grand.
Allez Bernard, répondez.
Non, mais je sais pas en contradiction. Je dis juste que en France, en tout cas, cette part de la littérature est trop importante à mon avis, et que le vrai travail, la vraie difficulté consiste à ne pas parler de soi. Parler de soi, à la limite, il faut juste avoir une bonne mémoire et être honnête. Mais ne pas parler de soi, ça veut dire créer des personnages et créer une structure. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et je regrette que la littérature imaginaire n'ait pas une plus grande importance, surtout en France, où elle est pratiquement inexistante. Donc il y a énormément d'autobiographies et très très peu de littérature imaginaire que j'espère je peux défendre un tout petit peu.
Allez, on continue, la parole va circuler. Je voudrais vous dire un grand merci, Pierre Nozière. Je rappelle que vous êtes donc biographe, fondateur du réseau Les Compagnons Biographes, et auteur de « Osez », votre livre aux éditions Voix Plume. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein, Alexandre Lacroix, Thomas Louis, Bernard Werber. On va continuer ce débat des idées passionnant dans un instant. Écrire pour se raconter, écrire pour se livrer. On l'a bien vu, hein, y a un côté psy. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
19h40 sur Europe 1, on continue ce débat passionnant du Club des Idées ce soir autour de ce phénomène de société. Les Français se passionnent à nouveau pour l'écriture. On écrit, on tente d'éditer. Est-ce qu'il y a des recettes d'écriture ? Écoutez ce que disait Joël Dicker, c'était sur l'antenne d'Europe 1, chez Pierre Dominot en janvier 2021.
Le roman, contrairement à ce qu'on peut croire, ne connaît pas de recette. S'il y avait une recette pour qu'un livre marche, tous les auteurs, tous les éditeurs seraient très heureux. Quand je commence un livre, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ce livre va être ? Est-ce que je vais terminer ce livre ? Est-ce que le texte sur lequel je travaille et pour lequel je vais consacrer des semaines, des mois, une année, peut-être 2 ou 3, est-ce qu'il va aboutir finalement à un roman fini que les gens vont lire ?
Joël Dicker dit qu'il n'y a pas de recette miracle pour un roman. Bernard Werber, c'est vrai ou pas ?
Oui, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est être original.
Ouais.
Je crois que tous ceux qui se démarquent, c'est ceux qui précisément ont trouvé quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Donc il ne faut surtout pas copier ce qui existe déjà, il faut être original. Après, ce qu'il y a, c'est que dans tous les romans, il y a un début, un milieu, une fin. Et la qualité d'un roman tient à la surprise finale. Donc c'est une sorte de politesse. Une fois qu'on dit au revoir dans le roman, il faut sortir un lapin du chapeau. En fait, un roman ressemble à un tour de magie. C'est un métier de prestidigitateur dans lequel il faut tenir l'attention du lecteur. Et au dernier moment, on sort un lapin. Et c'est à ce moment-là qu'on peut juger l'œuvre. Si on rate le lapin, on a raté tout le bouquin. Donc on apprend à être des magiciens.
Je me tourne vers le professeur Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et président et cofondateur d'une école d'écriture, Les Mots. Il y a des techniques que l'on peut apprendre ou pas ?
Oui, il y a toutes sortes de techniques, mais une technique et une recette, c'est pas la même chose. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Joël Dicker. Il n'y a pas de recette. Et je dirais que même l'ensemble des techniques ont pour but d'aider chacun comme auteur à trouver sa voie. Au fond, je crois que le débat qu'on vient d'avoir sur est-ce qu'il faut parler de soi, être dans une littérature auto-fictionnelle, autobiographique ou être dans l'imaginaire, c'est un petit peu un faux débat, dans la mesure où on peut être raconter des choses très intimes dans un espace de fiction. On va donner des éléments de sa vie privée la plus intime. En fait, on va juste les donner à un personnage et à qui on donne la troisième personne du singulier, hein, si vous voulez. On les déplace juste. Mmh. Et puis, inversement, dans quelque chose qui est autobiographique, on peut se mettre à fabuler. Donc, je crois que c'est un peu un faux débat, mais la vraie difficulté ou le vrai enjeu, c'est dans cet exercice de liberté de trouver sa voie. Ça passe par le style, par la scansion. Ça passe par la construction aussi, un petit peu. Et là, je dirais que les techniques, elles aident exactement. En fait, en littérature, il se passe une drôle de chose. C'est-à-dire que, comme on a eu des cours de français, on croit qu'on sait faire, alors qu'en général, pour tous les arts, on reconnaît qu'on a besoin d'un professeur, on a besoin d'une forme de transmission. Je veux dire que si vous voulez demain jouer un concert de guitare ou de saxophone, vous savez que vous devez prendre des cours de musique. Si vous voulez danser sur une scène, vous savez que vous devez prendre des cours de danse. Mais bizarrement, on croit que le passage par le collège et par le lycée dispense en quelque sorte de toute forme de transmission et d'apprentissage. Et là, je crois qu'il y a un enjeu du côté des ateliers d'écriture, mais qu'il y a aussi un enjeu de pédagogie plus générale sur l'écriture. Ça tombe pas du ciel. Et les grands auteurs, quand vous regardez bien leur biographie, ils ont souvent eu un mentor ou quelqu'un ou un autre auteur qui leur a transmis certaines choses, à qui ils ont lu leurs manuscrits, présenté leurs textes, de qui ils ont eu des retours critiques. Et c'est tout ça, en fait, l'apprentissage. L'apprentissage est nécessaire, c'est un apprentissage technique, mais ces techniques, exactement comme quand vous savez jouer de la musique, bah vous êtes plus libre. Par exemple, quand vous savez déjà bien jouer de la musique, vous maîtrisez bien l'instrument, vous allez pouvoir improviser. Dans l'écriture, c'est pareil. Plus vous êtes dans la technique et plus vous êtes libre. C'est ça le paradoxe.
J'ai donné la parole au pro Bernard Werber, au prof Alexandre Lacroix, maintenant l'élève. C'est un peu l'être à un jeune poète ce soir. Thomas-Louis, vous, il y a eu des disciples, il y a eu des gens qui vous ont inspiré pour écrire votre premier roman?
Alors, mon premier roman, en réalité, n'est pas du tout mon premier manuscrit, mais il y a effectivement eu des gens qui m'ont inspiré. J'ai eu la chance de faire des études de lettres et de ce fait d'étudier des écrivains. Et le fait de les étudier, concrètement, ça m'a... je pense que ça m'a donné envie, en fait, de les suivre dans cette perspective. Mais au-delà de ça, non, mon manuscrit, en l'occurrence, le manuscrit des Chiens de faïence, là, la seule et unique personne sur cette terre qui l'a lu, c'est mon éditrice. Ouais. Je ne l'ai fait lire à absolument personne. Peut-être par honte, je ne sais pas, mais je suis un peu seul avec ça aussi. Ouais. C'est peut-être aussi ça, l'écriture. Ouais. C'est aussi oser de ne plus être seul avec ce qu'on est en train de faire. C'est une façon de se placer dans le monde, de se demander d'où je parle pour parler de ce dont je parle, mais c'est aussi un exercice assez solitaire.
Mais Thomas, vous avez suivi une méthode, vous avez fait un plan, comment ça se passe?
Alors, pour celui-ci, non. J'ai pas fait de plan. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains, parce que j'ai la chance également de souvent les interviewer. Ils me disent parfois dans les rouages de leurs manuscrits, oui, je fais un plan, etc. Moi, en l'occurrence, j'ai pas du tout fait de plan, et c'était un roman d'imagination. Donc, j'avoue que je me suis un peu laissé emporter par l'idée. J'avais l'idée de base, et je me suis laissé emporter ensuite par ce qui venait un peu dans l'absolu. Il y avait pas de technique. La technique, davantage, je l'ai portée sur la langue, moi,
ouais.
Sur le style.
Ce soir, sur Europe 1, on vous offre un cours gratuit. Vous avez Bernard Werber, professeur. Comment on fait pour écrire un bouquin? Comment vous faites dans les coulisses de Bernard
Alors,
Werber?
Alors, je vous dirais, pour faire un bouquin, ça prend exactement 30 secondes. C'est 30 secondes pour trouver l'idée.
Ouais.
Une fois que vous avez l'idée, vous avez juste...
Il reste plus dur.
Voilà, vous avez la petite graine et après, elle va pousser. Mais si vous n'avez pas l'idée, vous n'avez rien. Et l'idée, c'est en gros... Moi, c'est un début, un milieu, une fin. Et moi, je commence par écrire une nouvelle. Je crois qu'il est temps aussi de remettre en valeur les nouvelles. Parce que la nouvelle, on ne peut pas tricher. Il faut que tout soit efficace. Il faut que ce soit marrant tout de suite. Et que ça prenne aux tripes. C'est-à-dire que les personnages soient hyper efficaces. Et que ça prenne tout de suite. Si jamais...
Mais Bernard, quand vous dites j'écris d'abord une nouvelle, vous avez la nouvelle, et après c'est comme une recette de cuisine, vous rajoutez du lait et ça fait un roman.
Alors c'est pas comme une recette de cuisine en rajoutant du lait, mais il
y a une base et puis après on...
Après on la met en scène. Et alors contrairement à Thomas, je fais des plans et je passe énormément d'énergie à faire un plan, précisément pour tout le temps surprendre. Mais c'est parce que ma littérature...
Donc c'est comme un scénario finalement, vous savez exactement où va se terminer votre livre.
Oui, et c'est vrai, il y a les deux écoles. Il y a l'école, on empile des briques pour faire une cathédrale, et il y a l'école, on dessine la cathédrale et on se débrouille pour que les briques participent à la création des murs. Mais moi, je suis à fond pour le plan, et pour écrire un roman, je fais une dizaine de plans. Après, je réécris entièrement une dizaine de fois. C'est-à-dire que je fais un premier grand roman qui me permet de comprendre tout ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Et je redémarre à zéro sans relire. Et cette technique me semble une technique qui permet, en tout cas, d'avoir un bon équilibrage entre le début, le milieu et la fin. S'il y a une chose à apprendre, justement, dans les ateliers, c'est comment équilibrer une structure. En fait, c'est comme un organisme vivant. Il y a des jambes, il y a un cœur et il y a une tête. Si vous mettez tout dans les jambes et qu'il n'y a pas de cœur et qu'il n'y a pas de tête, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Donc peut-être, même s'il n'y a pas de recette, il y a une manière d'observer son propre manuscrit pour qu'il soit équilibré et qu'il fonctionne.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. On parlait du côté biographe, psy tout à l'heure. Ouais. Alexandre Lacroix, vous êtes écrivain, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Ce côté psy... ce côté donner de soi, peut-être se livrer, oser, il est primordial, il est important.
Il me semble que, en fait, quand on écrit, on mène un travail sur les mots,
ouais.
Et que le travail sur les mots, c'est quelque chose qui est très profond, en fait. C'est-à-dire que, et là, on parle pas forcément d'écrire un livre, hein. Travailler sur les mots, c'est apprendre à nommer.
Bien sûr.
Ses propres émotions, ses propres sentiments. C'est apprendre à décrire le monde qui nous entoure. C'est apprendre à décrire des personnages. Mais en fait, qui sont ces personnages? Souvent des êtres qu'on a connus ou ils ont des traits de caractère qu'on a observés, des traits aussi physiques qu'on a observés. Et tout d'un coup, en fait, avec ce travail sur les mots, il se passe quelque chose d'assez étonnant. C'est que vous, je vais pas dire que vous devenez l'auteur de votre vie, vous devenez maître de votre destin. C'est un peu grandiloquent, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous avez pris sur vous-même et sur le monde comme vous n'aviez pas pris auparavant. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas strictement en rapport avec l'objet littéraire, avec le livre final. C'est quelque chose que ressent toute personne qui écrit. Même une personne qui écrit un journal intime qu'elle ne montre jamais à personne. Pourquoi le fait-elle, cette personne? Pourquoi écrit-elle ce journal intime secret? Eh bien, à cause de cet extraordinaire levier ou de cette extraordinaire auto-éducation, une auto-éducation morale, affective, que représente l'écriture tout au long de sa vie. Alors, c'est pas une thérapie. Pour moi, c'est pas une thérapie, c'est pour ça que le mot psy, c'est presque une philosophie.
Ouais, mais si en ce moment ça cartonne, c'est vraiment l'angle de notre débat ce soir, c'est aussi parce qu'on a besoin de coucher sur le papier ce que l'on a tous vécu, ce climat anxiogène, on a besoin de se libérer de quelque chose, Bernard Werber.
Moi, je pense que c'est une thérapie.
Ah, on a des accords.
Ouais, non, mais on joue sur les mots, c'est aussi une philosophie, mais surtout, ça fait du bien. Écrire, ça fait du bien. Tout à l'heure,
vous avez commencé comme ça, Bernard. C'était aussi pour vous évader.
Ah ben oui, j'ai commencé à 8 ans. Parce que je vivais, le monde scolaire pour moi était pénible. Ouais. J'écrivais des petites histoires avec les animaux pour me détendre. Et après, j'ai continué à écrire des histoires tout simplement parce que c'est amusant d'écrire des histoires. Et puis, en effet, bon, comme il disait, on se connaît mieux. Plus on écrit, plus on est obligé d'aller chercher dans sa propre capacité de psychologie, d'observation des autres. On est obligé aussi de comprendre le monde. Vous pouvez pas écrire si vous n'êtes pas curieux et de vous-même et des autres. Donc pour moi, il y a une thérapie. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien.
Ouais.
Je peux vous dire, j'avais des problèmes de santé et au fur et à mesure que je me suis mis à écrire, j'allais de mieux en mieux.
Vraiment ?
Et maintenant, j'ai résolu mes problèmes. Oui, j'avais un rhumatisme articulaire depuis l'âge de 9 ans.
C'est passionnant, c'est intéressant.
Et je me suis arrêté d'avoir des crises à partir du moment où j'étais publié. C'est-à-dire, le jour où j'étais publié, les crises se sont arrêtées. Donc, ce qui montre qu'il y a une dimension psychologique et que c'est pour ça que le mot thérapie, je l'assume, et c'est l'écritothérapie, c'est-à-dire que vous allez vous faire du bien en écrivant, même si vous n'êtes pas publié.
Il nous reste beaucoup très peu de temps, pardonnez-moi, justement, Bernard Werber. C'est bien, il y a beaucoup de livres qui arrivent, de manuscrits qui arrivent dans les maisons d'édition. C'est superbe, on peut écrire, on peut se faire plaisir tout seul.
oui.
L'idée, c'est quand même d'être lu au bout de la chaîne, d'avoir des lecteurs.
Mais il y a une formidable possibilité actuellement, c'est les plateformes. C'est-à-dire que de mon temps, si vous n'aviez pas été détecté par les éditeurs, ben vous n'avez plus qu'à ranger votre manuscrit dans votre cave. Maintenant, vous avez la possibilité, une deuxième chance, vous rentrez, vous mettez sur Internet, sur ces plateformes, il y en a toutes sortes, et vous pouvez présenter votre travail aux autres. Et d'ailleurs, l'un des grands intérêts d'Artist Academy, c'est que les élèves peuvent se lire entre eux, et ils peuvent se soutenir entre eux, et donc ils peuvent déjà arriver à faire émerger de leur groupe, enfin de chaque promotion, les meilleurs d'entre eux. Et ça, je trouve c'est intéressant, ça n'existait pas au moment où j'ai commencé à le publier.
Thomas Louis, 3,7 milliards d'euros de vente de livres imprimés, 324 millions d'exemplaires. L'édition se porte bien, elle a bien vécu le confinement. Vous qui allez sortir votre livre, vous espérez, au bout de la chaîne, avoir des lecteurs?
Alors je l'espère, oui, je l'espère grandement. Après, est-ce que c'était vraiment le but, je ne sais pas, d'être vendu. En l'occurrence, pour moi, c'était, ça est vraiment à titre personnel, mais c'était quelque chose d'assez symbolique. Moi, pour moi, d'écrire, c'était... Je ne raconterai pas ma vie ici, mais je viens d'une classe moyenne, la campagne, etc. Et pour moi, le livre, c'était un objet plus qu'un... C'était des figures, c'était des gens qui parlent à Europe 1 à Paris, dont je fais partie maintenant, en fait. Et c'était avant tout, c'était ça pour moi, le déclencheur. C'était vraiment symbolique d'écrire, d'être publié, c'était d'avoir mon livre, mon nom sur une étagère.
Dernière question à Bernard Werber. Confinement partiel le week-end, les librairies font désormais partie des commerces et des lieux essentiels. C'est une victoire, Bernard Werber ?
Oui, et le fait qu'il y ait un débat dessus, je crois que ça attire encore plus l'attention sur l'objet livre. Et je crois que et les libraires, et les éditeurs, et les auteurs, nous avons tous gagné à ce débat. Qui est un débat important, parce que finalement, on ne sait pas qui on est, on voit juste les émissions. Enfin, on pouvait dire, attendez, il y a un combat, vous devez vous battre pour les livres, pour les librairies. Et vous savez, en France, c'est un des pays où on a énormément de librairies. Si vous commencez à voyager, vous apercevez que dans les autres pays, il n'y en a pas autant. Et je crois que c'est notre trésor national, il faut se battre pour ça. D'ailleurs, je crois que les livres, la part des livres dans la culture est plus importante que celle du cinéma ou de la musique. Ça montre bien que c'est vraiment un endroit vivant, et qui ont plein de dynamisme et qu'il faut entretenir.
Et les Français sont battus, on l'a bien vu pendant le confinement. Il fallait vraiment la réouverture des librairies.
Les journalistes les ont bien aidés.
Exact.
Je vous en remercie.
Merci vraiment. Merci à vous, Bernard Werber, écrivain, auteur de La Planète des Chats, édition Albin Michel. Thomas Louis, journaliste, podcasteur, vous avez
juste
publié...
Juste bonne chance.
Et voilà, premier roman, Les Chiens de Faïence, c'est à la rentrée littéraire en août prochain. Et puis Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Et on le répète, un président et cofondateur d'une école d'écriture qui s'appelle Les Mots. Merci vraiment infiniment à vous trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et pour terminer ce club des idées spéciales écriture, il fallait bien sûr un écrivain et pas n'importe lequel. Il ne laisse jamais indifférent. On se plonge dans les archives d'Europe 1. Ça s'appelle Le Jour Où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Alors, on souhaite ce soir un bel anniversaire à Michel Houellebecq parce que le 26 février 1956, c'est le jour où il est né. Nicolas, c'est donc l'occasion de nous retracer sa vie.
Oui, pas facile. Hein. C'est un être très secret. Il déteste ses biographes. Rien que sa date de naissance, c'est compliqué. Il est donc né officiellement le 26 février 1956. Mais lui affirme qu'en fait, il est né le 26 février 58. Sa mère l'aurait vieilli de 2 ans parce qu'elle le pensait surdoué. C'était plus commode pour lui faire sauter des classes. Mais on ne sait pas quelle est exactement la vérité.
Bon, on adore l'anecdote en tout cas. Et il ne s'appelle pas non plus Michel Houellebecq, mais Michel Thomas.
Houellebecq, c'est le nom de jeune fille de sa grand-mère. Il est né en tout cas à La Réunion, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais on ne peut pas dire qu'il ait eu une enfance idyllique. Ses parents ne s'en occupent tout simplement pas. Michel vit chez ses grands-parents maternels en Algérie d'abord, puis chez les grands-parents paternels en Seine-et-Marne. C'est un élève brillant, cela dit. Il frôle Normal Sup, il fait l'Institut Agronomique de Paris, l'école de cinéma Louis Lumière aussi. Au début des années 80, il entame une carrière d'informaticien, il travaille pour le ministère de l'Agriculture, puis à l'Assemblée nationale, c'est là qu'il commence à publier des poèmes, un essai sur l'écrivain Lovecraft, et puis extension du domaine de la lutte en 94, très remarqué. Et ensuite, Les Particules élémentaires en 98, il passe très près du Goncourt, mais c'est Paul Constant qui l'a. Et on ne peut pas dire que Houellebecq ait été très fair-play à l'époque. Il disait à qui il voulait l'entendre ce qu'il pensait du livre de sa rivale.
C'est moyen,
Ça laisse pas un souvenir inoubliable.
Pour Houellebecq, ça compte, le Goncourt et la reconnaissance. Il sait qu'il est un grand écrivain depuis le début. La reconnaissance, il en a manqué aussi quand il a adapté La possibilité du Nil, son roman, au cinéma. Les critiques avaient été particulièrement cruelles avec lui. Il l'a pas digéré.
Je pense qu'en fait, la bonne solution aurait été de pas faire de projection de presse du tout et de le sortir en août quand les journalistes n'étaient pas là. Ce qui aurait permis aux gens d'aller le voir indépendamment et quelque chose de s'installer.
Ah, il a le sens de la promotion en tout cas. Hein.
Et il l'admet volontiers. Ce qui est bien avec Houellebecq, c'est qu'il dit ce qu'il pense. Écoutez ce qu'il répondait à Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1 quand il lui faisait remarquer qu'il était un pro du marketing.
Oui, mais oui, c'est vrai. Mais je sais pas, c'est parce que je suis intéressant, j'imagine. Parce que c'est jamais moi qui fais les plans, hein. Je suis pas bon pour ça. Je fais ce que l'éditeur me dit de faire. Et des fois, je devrais plus intervenir, en fait.
Nicolas, il a souvent été critiqué. Houellebecq, ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse pas indifférent, jamais. Hein.
On se souvient de la polémique et du procès pour ses propos sur l'islam en 2002, ou son exil fiscal en Irlande. Il ne se cachait pas derrière son petit doigt, là encore. Il est bien parti pour ces raisons-là, mais il reviendra.
Je reviendrai, quel que soit le système fiscal, quand j'en aurai assez de parler anglais. Non, mais c'est vrai, hein.
Pourquoi ?
Parce que là, je commence à avoir une petite lassitude. Enfin, j'avais très envie d'apprendre à parler anglais couramment, parce que c'est quand même très utile. C'est aussi une des raisons de mon départ. Et là, maintenant, de temps en temps, je commence à avoir envie de parler français dans ma vie quotidienne. Quoi. Ça revient.
Et il est revenu. Hein.
Et oui, en 2012, pour ces raisons-là. Et puis, peut-être que ça a joué, mais il a enfin reçu le Goncourt pour La carte et le territoire en 2010. Et là, on découvre un Houellebecq heureux, et ça étonnait tout le monde à l'époque.
J'ai une sensation bizarre là, mais enfin bon, je suis quand même très content. Profondément, je suis heureux. Ça.
Vous n'étiez pas habitué à ça, hein, Michel, Houellebecq heureux.
Oui, peut-être, oui. Vous êtes... Non, mais je sais pas, je suis quand même pas si sinistre que ça, en fait, j'ai une réputation, mais...
Est-ce que vous êtes plus content pour ce Goncourt pour La carte et le territoire que les occasions manquées des années précédentes pour La possibilité du Nil et Les particules élémentaires ?
Oui, vous savez, je suis quelqu'un qui oublie, hein. J'oublie les mauvaises choses, en fait.
Voilà, au micro de Pierre de Villeneuve. Et ensuite, il y a eu Soumission, énorme succès, puis Sérotonine, son dernier, très bien accueilli aussi. Mmh. C'est aujourd'hui pratiquement le seul écrivain français contemporain connu dans le monde entier.
Michel Houellebecq naît donc un 26 février, enfin, peut-être. Bon anniversaire à lui et merci beaucoup Nicolas Caro.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Et c'est la fin de ce 18-20. Merci beaucoup à Simon Guérini à la réalisation, Victor Chabert, Marie-Baptiste Duharé, Anne-Claire Bazin et également Xavier Yvon à la préparation. Lundi, c'est le retour de Julien Bugier et d'Isabelle Millet. Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Julien Pierce.